Alors, t'es un peu la petite nouvelle du groupe, enfin petite nouvelle relative. Tu peux nous parler un peu de ton intégration, comment ça s'est fait?
Écoute, ça s'est fait le plus naturellement du monde au final. Officiellement, je suis dans le groupe depuis octobre 2016 et j'ai commencé à bosser avec Yohan, en fait à partir de juillet. Bon, lorsque Chaos ID est parti du groupe, quand il a cherché une chanteuse, ça s'est fait par le biais de Steve Chenet, que tu connais peut-être, qui est un guitariste, qui évolue pas mal sur la sphère du métal parisien. Il a été dans Dayton, Sony, il a été dans Manor, donc il tourne quand même dans pas mal de groupes. Et en fait, du coup, je lui ai parlé de moi et j'ai passé une audition, voilà, truc standard. Et en fait, on a commencé à bosser quasiment directement sur l'album, en fait. Même pas une semaine après, donc du coup il me disait qu'il voulait partir avec moi, que humainement il le sentait bien, physiquement aussi. Et surtout, et peut-être l'élément le plus important, c'est qu'en matière de façon de travailler, on était complètement raccord. C'est peut-être le truc le plus important, parce que Dieu sait déjà que dans un travail, quand tu t'entends pas avec des personnes alors que t'es payé, ça peut être difficile. Donc dans une passion, ça peut être encore plus difficile de pas pouvoir travailler avec quelqu'un. Mais voilà, donc, du coup, on était complètement en accord sur notre niveau d'exigence, voilà.
Ok. Tu peux nous présenter un peu ton parcours artistique jusqu'à présent, enfin jusqu'à The Empire?
Ouais, écoute, moi je suis issue d'une formation de saxophoniste à la base. J'ai commencé à chanter relativement tard, je pense à 20 ou 22 ans en fait. Et quand c'est un ami qui m'a dit un jour pourquoi je ne dirais pas de chanter, pourquoi pas, j'ai créé mon groupe qui s'appelle Sidem, qui évolue plus dans le évanoui, le gothique, voilà. Qui m'a conduit jusqu'à jouer au White Gothic très fun à l'époque, c'est quand même la grande messe du gothique en Europe. Donc ça c'était plutôt assez cool, alors que j'avais jamais fait de musique, j'avais jamais composé avant, et puis finalement, voilà, j'ai eu cette occasion-là qui s'est présentée. Donc ça c'était avec Sidem, après j'ai eu pas mal de groupes, voilà, de métal mélodique, qui ont rien fait, mais finalement, bon, bah, quand tu prends de l'âge, tu t'aperçois que les expériences sont pas forcément inutiles, ça te permet après de mieux cerner les personnes, de savoir comment il faut bosser, et d'apprendre aussi comme ça. Donc pas mal de groupes voilà, de ce style-là. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec un groupe italien qui s'appelle The Experiment No. 2. Donc c'est un peu du steampunk, hard rock, metal, enfin plutôt prog, mais qui est mené par Paolo Valerga. Et en fait, il y a la spécificité d'être constitué de pas mal de membres de Therion. Mmh. En fait, que Paolo leur fait en général les jeux plateau, leur fait les visuels et tout, ils sont très amis. Et voilà, donc du coup, ça m'a permis de rencontrer tous les membres de Therion à cette occasion-là. Et en général, quand on joue, il y en a toujours qui se déplacent, ne serait-ce que Nalé, le bassiste, voilà, qui est quand même relativement présent dans le groupe. Donc voilà, donc ça, c'est un projet dans lequel j'interviens en tant que guest. En parallèle, et voilà, et ensuite en 2017, voilà, j'ai intégré avec Yohan.
D'accord, t'as des artistes références, en chanteuse, mais pas forcément, ou des gens qui ont un peu, qui ont et qui continuent à imprimer une empreinte sur toi au niveau artistique?
Ouais, alors, d'un point de vue chanteur, je te dirais de base, je pense Lisa Guerra, au niveau de la voix, c'est vraiment ce genre de voix que je plébiscite. Après, d'un point de vue influence, plus globalement, j'aime beaucoup tout ce qui est tout ce qui est chant polyphonique, en fait, les musiques traditionnelles d'un peu partout en Europe. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, en fait. Ça, c'est par les constructions sociales et culturelles que ça implique. Et après, sur la beauté, hein, tout simplement des chants. Je suis par exemple une grande fan de Goran Bregovic ou de Mirko Torica. La musique des Balkans, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et après, ça va être surtout des références, pour le coup, ça va être surtout des références, on va dire, des peintres ou même des écrivains. En fait, si tu veux, c'est que j'ai une vraie fascination pour tout ce qui est expressionnisme allemand. J'avais commencé une thèse sur ça. Et si tu veux, les expressions de la violence à travers la peinture, c'est quelque chose qui me parle et qui font écho aussi à mon parcours en tant qu'artiste. Donc c'est un mélange de plein d'influences. Voilà. Et puis après, bon, la musique classique, le black metal, sont quand même les deux genres que j'écoute le plus souvent.
D'accord, parce qu'effectivement, tu disais Lisa Gérard en premier nom. Alors, Dead Can Dance est très éloigné de la sphère métal.
J'ai grandi avec ça, avec du rock progressif. Donc c'est vrai que les structures alambiquées, c'est quelque chose qui me parle. Que quand t'as grandi avec IQ, Pendragon, Marillion, enfin, ce genre de musique-là, forcément, quand après, Ivan te dit, bah attends, j'ai fait un plan prog, je fais, ah, c'est génial, on dirait que j'ai trop tulle, tu vois.
D'accord.
Donc forcément, ça te parle en tant que référence, quand tu grandis avec ça. Ouais. Et du coup, effectivement, Lisa Gerrard, Dead Can Dance, qui reste quand même le groupe que j'irai voir à l'autre bout du monde, oui, effectivement, c'est très éloigné, mais parce que là aussi, c'est des mecs qui ont des influences et qui piochent à la fois dans les références historiques et à la fois dans justement ce côté traditionnel des chants que j'évoquais auparavant.
Petit aparté, Dionysos te branche ou pas?
De quoi?
C'est le dernier Dead Can Dance, Dionysos, t'as plu ou pas?
Ah non, je l'ai pas écouté.
Ah bah saute dessus, c'est très bien. Enfin bon, faut aimer Dead Can Dance, hein, mais si on aime ça, ça tue quand même.
On retourne sur plein de trucs là en ce moment, donc.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un petit retour un peu à la Serpent's Egg que moi je trouve très bien, mais bon. Revenons à nos moutons. Finalement, quand t'es arrivé, tu disais vous avez bossé tout de suite dès 2016. À ce moment-là, quelle ébauche de ce qui allait devenir, je sais pas comment on l'appelle, number 4, number 4, je sais pas comment vous l'appelez.
Numéro 4, on l'appelle numéro 4.
Okay. Voilà. Qu'est-ce qui existait déjà de numéro 4 à l'époque?
Qu'est-ce qui existait déjà? La plupart des morceaux que Yann avait déjà composés, forcément les paroles, ça, elles existaient déjà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Yann m'a dit sur tout ce temps libre d'apporter tout ce que tu peux apporter. Et ensuite, on complète ça avec le reste du line-up. Enfin, en fait, ce que je veux, c'est que lui avait déjà une grande base sur laquelle on a travaillé. Et pour être tout à fait honnête, on a dû passer un an à faire les maquettes de chant. Le fait, c'est pour vraiment peaufiner chaque intention. Vraiment, on a fait un travail d'orfèvre. Enfin, même si c'est pas forcément, ça ne comprend pas forcément, nous, on le sait. Mais voilà, on a vraiment travaillé ça à fond. Et ensuite, chacun a pu apporter un peu ses influences. Dans le cas de Thomas Caligari, notre batteur, c'est un mec qui bosse, tu vois, avec, il a bossé pour Claire Gay, il a bossé, il bosse pour des groupes qui font de l'afrofusion, enfin de l'afrobeat même, il a bossé même pour Kassar. Voilà, donc du coup, il évolue vraiment dans le milieu un peu, enfin complètement en parallèle, mais ce qui a apporté une vraie richesse aussi, tu vois, à un moment donné, t'as un morceau, attendez, là, je verrais bien un rythme un peu africain, vas-y, on teste.
D'accord. Pour peut-être en avoir parlé avec lui, finalement, quel était le projet artistique d'évolution, enfin s'il y en avait un, ou il y avait un peu une ligne directrice ou un fil rouge sur donc numéro 4 par rapport à Spirited Away?
Bah, écoute, dans tous les cas, en fait, Johan, au fil des ans, a développé un concept. À travers ces quatre albums. Donc, en fait, effectivement, les deux albums sont intrinsèquement liés, ne serait-ce que par les thématiques élaborées, donc l'écologie, la psyché humaine, qui sont vraiment les thématiques récurrentes depuis le premier album. Et du coup, entre Spirited Away et numéro 4, en fait, là, numéro 4 se passe en 2052, où on est dans un monde pré-apocalyptique. Effectivement, on s'est aperçu de tous les écueils, on est au bord du précipice, et là, en fait, c'est soit on change tout, soit on change le système, soit on crève en tant qu'humain. Voilà, donc ça, c'était la différence, entre guillemets, de propos avec Spirited Away, qui, lui, était plutôt sur l'ordre du constat. Sur l'ordre du constat, un petit peu de l'éveil, et là, en fait, on passe un cap, on a grandi, c'est en ça que, aussi, l'album fait suite au précédent, d'un point de vue strictement conceptuel.
Ok. Sur le disque, finalement, apparaît 11 titres finalisés.
Mm-hmm.
Vous en avez bossé plus, après vous avez fait un choix, ou vous avez bossé 11 titres?
Non, en fait, si tu veux, c'est que Johan, il doit avoir un catalogue là, de 200 chansons actuellement.
D'accord.
C'est extrêmement politique, ça fait un vrai passionné, sa vie à ça. En dehors du travail en tout cas. et en fait, donc du coup forcément on aurait pu en mettre plus, mais on a décidé de faire des choix pour que ça reste aussi uniforme, pour rester dans la cohérence aussi des thématiques. Et surtout, tout simplement, c'est qu'il y en avait, bah, il faut aussi laisser du temps à certaines choses, voilà, pour qu'elles soient meilleures. Donc effectivement, il fallait mûrir certaines chansons. On n'avait pas forcément le temps ni les idées sur le coup pour les faire mûrir. D'autant plus qu'à l'époque où on a commencé à rebosser sur cet album-là, le line-up n'était pas tout à fait fixe. Donc du coup, il y avait une problématique humaine derrière qui faisait que certaines choses que là les membres ont pu apporter, et ils n'auraient pas forcément pu les apporter sur ces titres dont nous-mêmes, en tant que chanteurs, on n'était pas sûrs, tu vois. Donc du coup, on s'est vraiment focalisé sur ces titres-là, on en a tiré deux au final, et je sais qu'on reprendra ultérieurement à l'époque qu'on aura encore mûri, hein, de toute façon. On va grandir aussi humainement,
entre guillemets,
voilà, c'est la suite à l'éternel.
D'accord,
je comprends. On verra plus tard.
En général, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les sessions d'enregistrement? Comment ça s'est passé?
Eh bien, écoute, la façon dont on a enregistré, c'est extrêmement simple. C'est que lorsque s'est posé la question de l'enregistrement, déjà, on avait pris conscience de tous les reproches qui avaient été faits au précédent album. Donc du coup, on se dit, là, cette fois-ci, on va absolument mettre les paquets sur la production. Johan, tu fais pas de compromis, t'essayes pas de faire long, tu essayes juste, en fait, de suivre ce que tu veux faire. Ok, on part de ce basia. Donc on se dit qu'on va enregistrer la batterie. Tout le monde, en fait, tous les gens qu'on a contactés en région parisienne, de studio et tout ça, nous ont dit, les mecs, vous allez dépenser 1000 balles pour rien, parce que de toute façon, on va la trier. Et en plus, on va la recaler. Donc en fait, ça sert à rien de vouloir enregistrer, ou alors sinon, on fait en marcheuse, de toute façon, on va recaler. Et nous, en fait, ça ne nous convenait pas, parce que comme je te disais, on a un batteur qui a un groupe de balades. Donc du coup, c'était hors de question, en fait, de péter le groupe en faisant quelque chose qui allait être, tu vois, trié et recalé. C'est pas envisageable. Donc du coup, vu que tous les mecs nous disaient, non, on ne veut pas les enregistrer, on n'est pas bon pour ça, c'est super chiant d'enregistrer la batterie. Du coup, on se dit, on va se tourner vers deux personnes, mais en tout cas, on lâchera pas, on perdra mordicus. Et ce qui est passé, c'est que quand on a recommencé à écouter des sons de studio, etc., les gars, en fait, Thomas et Johan, se sont dit, je me souviens, ce mec-là, Angelo, c'était dans un son d'Iron Mask sur la tournée de Rhapsody, c'est pas mal d'écouter un petit peu ce qu'il fait. Ils ont écouté. Et là, en fait, ils sont vraiment tombés amoureux du tas que faisait Angelo. Donc, on l'a contacté et en fait, il a accepté de faire un peu le rôle de producteur. Il a embrassé à merveille parce qu'en fait, il ne faut pas juste contenter d'être un technicien qui enregistre, qui nettoie les pistes, tu vois. C'est un mec qui s'est vraiment approprié le projet. Il a enregistré, on a du coup enregistré la batterie chez lui en Italie. Et ensuite, on est allé enregistrer le chant il y a un an tout pile.
D'accord, voilà. Donc vous êtes déplacé.
Comment?
Donc ça s'est fait en Italie.
Oui, ça s'est fait exactement en Italie. Voilà. L'enregistrement et le mixage s'est fait chez Angelo Cuglieri. Et dans ces conditions-là. Et en fait, si tu veux, c'était même beaucoup mieux que de le faire en France. Bon, je crois que c'est d'un point de vue financier. Mais surtout, c'est qu'on était dans un vrai contexte de création. On s'est loué une petite chambre, tu vois, qui était juste au bord de la mer. Ça peut paraître très très con, mais en fait, quand tu sors, tu vois la mer, c'est quand même dans d'autres dispositions que de te taper le stress du RER pour aller enregistrer en studio, repartir le soir chez toi, te fatiguer. Là, on était vraiment dans un cadre idéal, en fait, pour vraiment faire de la création toute la semaine. Même si les choses avaient déjà été entérinées auparavant, il n'en demeure pas moins que lorsque tu es en studio, des fois, de nouvelles idées peuvent émerger. Et du coup, en studio aussi, c'est fait fort de beaucoup de conseils. Aussi technique, aussi sur le travail des fréquences par rapport au clavier. Donc vraiment, il a poussé son perfectionnisme. Il a vraiment poussé.
D'accord.
Il a transcendé vraiment le rôle du technicien de l'ingé son. Voilà.
Et ça a duré combien de temps?
Écoute, en termes de temps, les maquettes ont été prodigieusement longues. Mais au final, si je te permets, quand je fais ce travail-là en amont, d'enregistrer, la batterie, elle a été faite en 5 jours. Tout le chant a été fait en 5 jours aussi.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, la guitare, Nick l'a enregistrée de son côté, chez lui en propre. Et la basse, pareil, Pierre-Emmanuel l'a enregistrée chez lui.
Ok. Un petit mot sur les deux guests.
Ouais. à Papadopoulos, du coup, de toute une blague, tout simplement, parce que Yoann est allé le voir en concert. Et Yannis est venu ensuite au son auberge. Yann, qui ne le connaissait pas du tout auparavant, en fait, il a dit, écoute, on ne se connaît pas, mais demain, je t'envoie un message. Je veux que tu chantes sur mon album. Et le gars, il fait, ok. Et en fait, ils ont discuté un petit peu, et au bout de 5 messages, Yannis a dit, bah, ok, je suis banco, allons-y. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que, à la base, ce titre-là, avec Joël Monca, c'était Yann qui devait l'interpréter, sauf qu'il n'était pas du tout content de ce qu'il avait produit. Et plutôt qu'en fait, soit de remiser les morceaux, soit de sortir quelque chose d'un peu médiocre, vocalement parlant, bah, il a dit, écoute, j'accepte le fait que pour l'instant, je suis pas encore au niveau de ce que je veux faire, donc, c'est peut-être judicieux d'avoir un guest. Voilà, comment ça s'est fait. Mais par humilité, en se disant, non, je peux pas, pour l'instant, je peux pas. Bah, je ferai mieux la prochaine fois, mais là, on va prendre quelqu'un. Du coup, il a cherché, et puis là, il est tombé amoureux de la voix de Yannis, qu'il a découvert en live, et puis, ça s'est fait comme ça.
Voilà pour, Donc, mais Yannis, il a enregistré de son côté, il vous a envoyé les pistes, et puis, ouais, ou?
Ouais, il a enregistré chez lui, ouais, en vrai. Il a envoyé les rushs, et puis, voilà.
Parce que enfin c'est peut-être moi qui me fait des comment dire qui est influencé a posteriori, mais je trouve que le titre lui-même il fait très Battle Beast ou Beast in Black, c'est pareil. Ça c'est,
ouais.
C'est... il y a, je trouve qu'il y a enfin surtout alors, il y a un premier truc c'est, je trouve, j'ai l'impression que la plupart des autres morceaux t'as une toi enfin l'enregistrement de ta voix est assez comment dire pur, assez direct. Là il y a des effets sur ta voix. Et le titre au complet, il fait assez. Enfin, c'est finalement quand on voit Papadopoulos, on se dit, bah, c'est bien son genre, quoi.
Ouais. Écoute, c'est pas le premier à me dire qu'effectivement, ça fait un titre très black sur le coup. Après, c'est vrai que les étés sont un peu plus sur savoir à un moment donné, mais quand il dit un nom, tu sais que il dit autotune, donc du coup, on a vu autotune écrit dessus. Mmh. On m'a aussi dit que vocalement parlant, il n'y avait peut-être pas assez de parties primes concernant, contrairement aux autres morceaux. C'est un peu plus lisse.
Ben c'est ouais, je trouve que ce titre là, il est très bien, mais il est efficace, mais il dénote un peu bizarre. Il sort un peu du lot du reste de l'album. Je sais pas trop pourquoi, mais bon.
Ouais, alors, et en même temps, on en avait bien conscience. Mais dans la mesure où il nous fallait un single et que en fait dans l'histoire d'Asylum, tu l'as remarqué, il y a toujours eu des morceaux, tu vois, comme ça, hyper catchy, qui te fait rappeler de plus passer, tu vois. Mais finalement, voilà, moi c'est un truc que je disais à Yoann, je lui fais écoute, on va se faire défoncer, c'est pas grave, on va l'assumer, parce que de toute façon, quelque chose dont t'es pas sûr, effectivement là tu te fais défoncer, tu le vis très mal, quelque chose dont t'es sûr. Ben, on y va en fait, il faut compter le truc à fond, tu prends Battle Beast, c'est une blague, c'est hyper kitsch, mais c'est pas pour autant que les gens ne vont pas le voir, tout le monde assume en fait d'aimer ce côté kitsch.
Oh non, et puis moi ça me va très bien, un truc kitsch mais efficace. Mais est-ce que je m'étais demandé si c'était plutôt, enfin tu vois, qu'était l'œuf ou qu'était la poule. Est-ce que Yoann il avait sécurisé Papadopoulos et donc il s'est dit je vais écrire un titre très Battle Beast, ou en fait c'était l'histoire que toi tu me dis, c'est plutôt l'inverse. Il avait d'abord le titre et il s'est dit c'est lui qui va rentrer dedans, quoi.
Ah, c'est ça, c'est la deuxième option, c'est lui qui va rentrer dedans. Et tout en important, c'est-à-dire que s'il voulait faire des modifications sur la ligne de chant telle qu'elle avait été envisagée, il était tout à fait libre. Voilà, c'est un chanteur qui est professionnel, en excès de confiance, il a une grande expérience, forcément, tu vas pas... Si tu veux, moi je suis toujours assez gênée quand t'as des gens qui vont contacter des cons en leur disant « veux tu fasses ça comme ça ?» J'estime qu'en fait, quand tu contactes des fois ce genre de personnes, tu les laisses aussi apporter ce que eux-mêmes ils font. C'est là où ils l'ont fait, parce que sinon, auquel cas, tu prends juste quelqu'un pour faire une voix tes mains et puis basta. Là, en fait, on lui a dit, écoute, il y a déjà cette ligne qui a été créée, si tu veux en faire une autre, si tu imagines un autre truc, vas-y. Donc,
D'accord.
Voilà.
Et
ouais. Plutôt à cette idée, quoi.
Ok, et pour la participation du membre de Tank?
Écoute, déjà parce qu'on est très liés avec les membres de Tank qui sont des amis. Du coup, ils sont devenus des amis à force de les fréquenter. Nils, de toute façon, a toujours été un petit peu dans le giron de Gazilum. C'est vrai qu'il a fait souvent des dates avec nous. Il avait fait la tournée avec Rhapsody en 2016. Donc du coup, forcément, on est devenus amis. Raph habite en plus à 2 minutes à pied de chez Yohan, donc forcément, il était plutôt à côté de moi. Et en fait, quand est venu ce titre-là, en fait, on a travaillé, on a beaucoup travaillé, en fait, avant qu'il arrive à cette version finale. Il y a eu 5 ou 6 changements de refrain. On n'était jamais satisfait, on trouvait qu'il manquait de punch. Et un jour, j'ai dit à Yohan, j'ai fait, écoute, ce morceau-là, ce serait cool d'en avoir un qui est un peu plus vénère que les autres, quoi. Bah, de presque parce que moi, voilà, c'est vraiment le genre de métal que je vais peut-être préférer. Donc, j'ai dit, j'aimerais bien qu'on mette un petit peu de la double dessus avec un vrai chant crié. Ce serait chouette. Et du coup, bah là, forcément, on a Bantara qui a une maîtrise absolument absolue de chant. Ça fait naturellement imposer en tant qu'ami et en tant qu'artiste.
D'accord. Alors, je sais pas si tu pourras me répondre sur ce côté-là, mais sur le côté business, les deux derniers avaient été sortis chez Massacre Records.
Ouais.
Et là, vous passez chez MEO Music. Alors, sans dévoiler de secret, ça passait plus avec Massacre ou vous avez besoin d'autre chose ou...
En fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que sur le dernier album, en tout cas, la promo a vraiment été pas la promo France. Tout ça, c'est Roger de Réplica qui s'en occupe. Donc, tout ça, toujours extrêmement bien. Par contre, pour la promo internationale, Massacre n'avait pas du tout joué le jeu, et même a priori, quand Yann a envoyé des dates, etc., on faisait vraiment du suivi, il n'y avait jamais aucune réponse. Enfin, bon, bref, les mecs étaient un peu en dilettante, et du coup, ça faisait un moment où on se disait, bon, on va pas repartir avec Massacre, quoi, parce que c'est pas franchement sérieux. Et en outre, il y a eu un gros problème au moment de la promo, c'est-à-dire que je faisais la sous-traitance à une boîte. Et cette boîte-là, elle s'était à moitié cassée la gueule, donc vraiment pendant 2-3 mois, ça avait été le boxon de leur côté, et c'était le moment où ils étaient sortis de Utility Way. Du coup, ça a été un peu fail, quoi. Le gros fail, et du coup, bon, on s'est dit, on va miser, on n'a pas eu de. On a été contacté forcément par plusieurs labels, mais qui ne faisaient pas des propositions, voilà, qui vont. Nous convenait en fait. Les mecs ils font du buyout et ils vont acheter tous les bacs catalogues pour vouloir la gestion des droits pendant 12 ans. Enfin, tu vois, on était sur ce genre de proposition, tu vois. Et là, waouh!
C'est sûr.
C'est chaud quoi.
Mmh.
C'est chaud.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
D'accord. Un mot sur le visuel du disque, comment vous l'avez bossé?
Eh bien, écoute, donc tu l'auras compris, en fait, il y a un double. De lecture. Donc là en fait, quand tu regardes le concept, donc ça se passe en 2052, on incarne tous des personnages, un personnage du monde officiel, soit le Starkarat, si tu veux, et aussi des personnages entre guillemets de résistants. Donc pour illustrer ce concept-là. Et en fait, dans ce monde-là pré-apocalyptique, donc très chimique au final, les masques à gaz, par exemple, sont devenus des têtes de luxe. Donc, en gros, tu prends le concept de tous les coups de survie que tu peux trouver dans les boutiques, dans les plus bouteilles d'eau, etc. En fait, ils sont devenus des éléments fashionable, entre guillemets. Donc, d'où l'idée de ce masque à gaz, parce que de toute façon, tu vis dans un monde où tu dois absolument tout respirer, mais par contre, il faut absolument rester fashion, c'est un accessoire de luxe. C'est pour ça qu'on a mis le logo, tu vois, qui est ceinturé de strass. Tu vois, pour un petit peu ce côté-là. Ma pose, elle évoque, tu vois, on avait fait un espèce de mood board avec que des images des pubs pour du parfum, par exemple, dans figure féminine, sur fond blanc, avec cette typographie aussi sur le côté, des fois qui dénote un peu, parce que c'est vrai que, en général, sur les CD, t'as toujours le titre en fonte, mais jamais sur le côté. Ça, c'est quelque chose que je vais retrouver plus dans la publicité. Donc, du coup, d'un point de vue graphique, on avait effectué ce travail au préalable, et ensuite, on a fait le livrable à Gustavo Savès, et voilà. Comment ça s'est fait.
D'accord, super. Vous teasez là depuis quelques temps un clip pour One Day.
Ouais, effectivement.
Tu peux nous en dire plus sur l'enregistrement de ce clip?
Ouais, alors du coup on a travaillé avec un type qui s'appelle Alban Verneret, que je connaissais déjà, avec qui j'avais bossé. Le mec c'est un réal, on va dire professionnel, parce que des fois... un peu comme tout le monde, on a toujours deux vies, lui il en vit vraiment de son été, il bosse souvent avec Warner, Chappelle et tout ça. Et c'est un gars que je connaissais, donc je lui ai expliqué un peu notre projet, il nous a dit, écoutez, je sais très bien que vous n'aurez pas 30 000 euros à mettre dans un clip, vous n'êtes pas Warner. Par contre, moi le sujet m'intéresse, vous êtes cool, je vais vous aider quoi. Donc il nous a fait voilà un prix hyper intéressant et on l'a tourné en fait là où on avait fait le shooting photo, qui est mon lieu de travail.
D'accord.
C'est assez pratique, on nous a fait un joli appel en industrie, parce que si on avait dû privatiser, ça nous aurait coûté plus que le clip.
Bah oui, c'est ça.
Ouais, un joli appel en industrie, merci ça. Donc on l'a fait là-bas comme une image et du coup on a tout tourné sur une journée. Donc effectivement là, si tu veux, One Day, c'est vraiment l'éveil des consciences et on a réussi à mobiliser une vingtaine de personnes là un samedi après-midi le 16 mars pour le tourner. Chacun incarnait en fait les fameux résistants, les fameux fighters qu'on interpelle sur les réseaux sociaux, se sont prêtés au jeu. Et voilà, et donc du coup on a tourné le clip en une journée et Alban, qui est un espèce de fou furieux, nous avait livré une V1 le lendemain, tu vois.
Ah oui, d'accord.
Et en fait il bosse tout seul, il a une façon de filmer, tu vois, il est avec sa saisie, il tourne autour de soi et donc en fait il est toujours dans des montages dynamiques et ensuite effectivement on avait fait un minimum de scénarisation, après on pouvait pas aller dans les choses complexes parce qu'on n'est pas comédien tout simplement, mais nonobstant ça en fait il était hors de question de repartir par quelque chose entre guillemets de strictement narratif. Dans la mesure où, il faudrait faire limite du court-métrage, qui coûte 30 000 euros à peu près pour faire un cours. Et en outre, du coup, on n'est pas encore assez connu pour que les gens puissent être, happés par le fait qu'un petit groupe, va faire un court-métrage. Et en outre, ce que les gens attendent aussi, c'est de voir la gueule des musiciens en action. Voilà.
Donc, okay.
On regarde tout ça, des éléments financiers, de l'attente aussi du public, même s'il faudrait pas forcément fonctionner comme ça en tant qu'artiste, mais quand t'as pas les moyens, quand t'as pas les moyens d'être Victor Hugo, t'essaies déjà d'être Marc Lévy et ensuite tu reviens à des chaussons de mondial, entre guillemets.
Okay.
Et là, du coup, c'est le bon compromis, tu vois, entre avoir quelque chose de qualité, répondre aux attentes du public, en te faisant plaisir, en ayant un minimum de narration.
Ok, spécial dédicace aux amateurs de Marc Lévy.
Non, mais c'est toujours. Non, c'est un exemple qu'on m'avait sorti à HEC. Il me disait, ouais, vous voulez faire du Victor Hugo, il faut prendre du Marc Lévy pour pouvoir financer du Hugo. Ah, d'accord.
Ouais, après, c'est pas bon. Ouais. Je pense que, si je me souviens bien, Victor Hugo a plutôt bien vécu, mais Marc Lévy, il vit bien, ouais, ça c'est sûr.
Ouais, après, c'est plutôt sur le principe de la vache à lait, quoi. Avoir une vache à lait pour financer justement des petits indépendants.
C'est l'idée, ouais. Juste pour terminer, donc, finalement, pour toi personnellement, mais puis collectivement, quelles sont un peu vos attentes et vos espoirs pour les mois qui viennent?
Écoute, tout simplement déjà que les gens s'approprient cet album, et puis surtout nous souhaiter de faire une belle tournée européenne là, cet automne, hiver.
Il y a des trucs sur le feu?
Écoute, on commence en tout cas à bien réfléchir à ce qu'on aimerait. C'est vrai qu'entre nous, serait aussi assez idéal que ça, par exemple, de pouvoir ouvrir couramment, tu vois, je pense que on s'en rapproche aussi, c'est vrai qu'on nous a fait quand même pas mal le parallèle aujourd'hui, ce sera pas inepte, mais ou même, enfin voilà, d'autres groupes, moi j'ai pas forcément de préférence, à partir du moment où c'est avec des musiciens qui sont suffisamment bien câblés et sympas, voilà, c'est comme au taf, tu peux faire le pire métier du monde si c'est avec une équipe, c'est cool. Tu peux le faire dans les meilleures conditions.
Surtout que si on regarde, vous aviez passé un cap avec, à l'époque Spirit of the Way, on s'est tourné avec Tourilly. Même si c'était un Tourilly, l'aura de Rhapsody, ou le demi-Rhapsody, je sais pas comment on appelle, était différente, mais, vous avez tourné quasiment, le groupe a tourné 3 semaines ou 1 mois, il y avait des dates un peu partout en Europe. C'était plutôt un beau coup de projecteur pour le groupe.
Ouais, mais justement là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que le problème, c'est qu'après le groupe a commencé un petit peu à se disloquer après la tournée.
Ah.
Or là, après une telle tournée avec Rhapsody, il aurait fallu pas trop le faire, quoi. Il y a en fait du visuel, du clip, même si financièrement c'est extrêmement compliqué. Mais là, du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment essayer de faire les choses différemment, c'est-à-dire aussi produire du visuel. On a beaucoup appris, en tout cas avec Yohan, à faire des montages, à faire, à se démerder par nous-mêmes, parce que sinon c'est un coût monstrueux. Et malheureusement, on ne gagne pas 20 000 euros par mois, sinon ça nous aiderait. Ouais, mais c'est saine. Mais du coup, là, dans l'idée, c'est ça, quoi. C'est faire de belles dates et surtout continuer, à entretenir juste une communauté, quoi. mais c'est une communauté et pas refaire 3 ans de sans communiquer. Forcément, les gens publient, c'est rapide, c'est normal.
D'accord. Bon, ben, en tout cas, on vous le souhaite. Et puis, ben, à très bientôt sur scène ou je sais pas, lors de la suite de vos aventures.
Ben, c'est génial. Merci beaucoup, en tout cas, de ton temps.
Merci, à bientôt. Bonne soirée.
À bientôt. Salut.
Ciao.